A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette quatrième et avant-dernière partie de la grande preview d'Unkebdo de la saison 2021-2022. À l'intérieur de cette immense preview, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie à propos de la conférence Est. Et pour en parler, on est trois aujourd'hui. D'abord, le responsable de ce débat un peu lunaire sur Isaiah Stewart, qui a pris 10 minutes dans l'épisode précédent, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane ?
Eh ben ça va, et c'est toujours des débats intéressants de est-ce qu'on paye ou pas les pivots, les Suns sont en plein débat là-dessus.
Ouais, et ils l'ont limite clos je pense le débat, et on n'était pas tous d'accord là-dessus, on a eu l'occasion d'en parler un peu dans un space, on vous en reparlera. Et puis aujourd'hui on a un programme assez dense parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer gros, qui visent les playoffs, donc c'est peut-être pas de son goût, ça vise moins la draft, mais il est quand même là, c'est Alan. Comment ça va Alan?
C'est vrai, c'est vrai. C'est moins, ça m'intéresse moins. C'est moins mauvais, c'est moins jeune, mais.
Il y a une équipe qui attire ton attention.
Toujours. Il l'attire. Il m'a un peu énervé dernièrement. Mais ouais, c'est là. Salut les gars, salut à tous.
Très bien. Eh bien, du coup, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer aujourd'hui aux 8 dernières équipes qui nous manquent pour compléter ces previews sur les 30 équipes NBA. La semaine prochaine, on fera une preview un peu plus généraliste. On parlera des trophées, mais aussi du titre, notamment. Avant ça, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter notamment, où on a fait mardi soir, c'est ça, un space. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un space, c'est l'occasion de discuter, prendre la parole avec nous et discuter. On va essayer de le refaire pendant la saison. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter. Et puis, vous le savez, on a la chance cette année d'être le partenaire du League Pass. Vous pouvez trouver un lien dans la description. Le League Pass, c'est donc la possibilité de regarder les matchs NBA en direct, en différé, sur toutes les plateformes. Vous pouvez, en passant par ce lien, aussi profiter de l'essai gratuit pendant 7 jours. Et puis, les gars, je me suis dit, je fais tout le temps la même pub du League Pass, qu'est-ce que je peux rajouter ? Ben, le League Pass, c'est aussi la possibilité de travailler vos langues étrangères. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on peut penser à l'anglais. Mais quand on regarde avec le League Pass, on a toujours des petites options pour regarder avec d'autres langues. Et moi, donc, le Netbox, je me le suis fait avec la télé coréenne. Je peux vous dire que ça rajoute un petit peu, ça rajoute un petit piment supplémentaire assez incroyable. Je crois pas que ça va m'aider pour mieux maîtriser la langue, mais en tout cas, le League Pass peut être meilleur que Babbel aussi, hein, pour apprendre les langues. Du coup, le lien est dans la description. Fini de blablater, on marque une petite pause et puis on démarre avec les Hornets. Du lourd, du très très lourd, je vous l'ai dit, aujourd'hui la plupart des équipes dont on va parler visent les playoffs et ça commence avec les Hornets. On débute avec une question de Tom. Pour rappel, à chaque fois on va essayer de répondre à deux questions vis-à-vis de chaque équipe traitée. On part dans l'ordre inverse des équipes, non pas de la ville mais du nom de l'équipe. Donc ici, les Hornets, question de Tom, 22e attaque et 20e défense l'an passé, les Hornets peuvent-ils être top 15 d'un des deux côtés du terrain cette saison? Je sais que les Hornets, ça te hype, Alan. Alors, je vais commencer par toi. Est-ce qu'ils peuvent être dans la bonne moitié en attaque ou en défense?
Ils ont beaucoup plus de chances de l'être en attaque, je pense. S'ils le sont, ça en dira pas mal, je pense, sur la Melo Ball, en fait. S'ils sont dans la première moitié de la ligue en termes de rating offensif, ça peut vouloir dire, avec la Melo Ball qui se blesse pas et qui joue 70-75 matchs, ça voudra dire que dès sa deuxième année, il est quand même une option assez viable à l'initiation en attaque. Ils vont avoir besoin de Rozier qui était pas là au premier match. C'est vrai que c'est un peu changé leur attaque et c'est un peu moins flamboyant. Avec si Rozier et Ward et la Melo jouent 70 matchs, je pense qu'ils peuvent être dans une des 15 meilleures attaques de la Ligue. En défense, non.
Même constat, Madiane. C'est plutôt l'attaque. Ils étaient 22e l'année dernière, donc c'était une moins bonne attaque qu'une défense, mais on peut penser à l'année dernière aux petits soucis de blessure, notamment Gordon Hayward, même si c'est récurrent. T'en penses quoi de cette question ?
Oui, clairement, pour moi, c'est l'attaque. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on pouvait voir au fur et à mesure émerger. C'est-à-dire qu'on voyait des fois des gros matchs d'attaque qu'ils étaient capables de faire. Et la base est la même. Je pense quand même qu'on a un LaMelo Ball du coup, qui va être dans sa deuxième saison. Elle, sa première saison était tronquée. Hier, visiblement, il a montré de très belles choses. Honnêtement, oui, moi, je me suis même montré confiant. C'est-à-dire que si ça roule comme ça doit rouler, je vois pas de raison pour lesquelles il ne serait pas une top 15 attaque. C'est même pas assez possible. C'est que pour moi, dans l'ordre normal des choses de leur saison, ils doivent l'être. Parce que de toute façon, défensivement, pour moi, ils ne seront pas au rendez-vous. Donc, s'ils veulent gagner un minimum de matchs, va falloir que ça se passe par l'attaque.
Comme je suis plutôt d'accord avec vous, autant parler un peu de la défense et pourquoi on n'y croit pas. C'est une équipe qui va jouer souvent assez small ball. Alors certes, ils ont mis Plumlee dans le premier match, je crois, dans le 5 titulaire. Mais quand tu joues avec du PJ Washington en 5, dans un 5 small ball avec le banc, sachant qu'en plus, certains des joueurs sur la base arrière peuvent réaliser les minima, mais on n'a pas de gros défenseurs. Je pense qu'effectivement, c'est une équipe qui se dirige vers un profil plus offensif. Et je pense que dans cette conférence Est-là, on va y revenir, c'est plutôt un bon pari, je pense, de parier sur les points. Parmi les joueurs, du coup, on peut passer à la deuxième question de cette équipe. On a Kelly Oubre, avec une question très marrante de Tom. Kelly Oubre va arrêter d'être juste la caution flow et enfin se remettre en route. Kelly Oubre a un peu de mal sur son premier match, 2 sur 9. Rappelons quand même qu'il a manqué la quasi-totalité de la pré-saison. Il était blessé. Moi, j'ai deux questions après cette question de Tom, les gars. Alors déjà, pourquoi cette intersaison, on a décidé de débattre du flow d'absolument tous les joueurs NBA ? Je ne sais pas pourquoi. Et c'est quoi, en fait, aussi le vrai Kelly Oubre, en fait ? Je me suis un peu posé cette question. C'est quoi ?
C'est entre le Kelly Oubre de Phoenix et le Kelly Oubre des Warriors.
Parce que le Kelly Oubre de Phoenix, on est d'accord que c'est un peu fantasmé. Enfin...
Complètement. Je pense aussi. Je pense que c'est un joueur qui fait surtout du catch and shoot, est un bon athlète en transition, mais n'est pas le shooter qu'il a montré par flash. Et c'est pas aussi le shooter du début de saison avec les Warriors l'an dernier qui a plombé tous ses pourcentages. Mais si c'est déjà un joueur qui met 35% de ses 3 points, c'est pas si négatif que ça. Je pense qu'il va leur faire du bien parce qu'en fait cette équipe des, moi il y a beaucoup, elle est très très jeune à des postes assez clés en fait. C'est-à-dire que et les fans, je pense, vont demander peut-être parfois de voir les jeunes sur le terrain, les intérieurs notamment, parce que bon, ta rotation c'est Plumlee Washington. Et que ils ont drafté un jeune dans le top 20 l'an passé. Je pense qu'ils aimeraient bien les voir, mais ça va heurter ton équipe. Je pense qu'Oubre, ça peut être un catalyseur du banc, vraiment. Parce que, sur les ailes, hier soir, moi, Cody Martin et Jalen McDaniels, ça me dérange pas, hein, mais c'est pas
si flamboyant. Si tu vises les playoffs, ouais, c'est court.
Non. Tandis que Bridges, avec Gordon Hayward, et si tu as un bon Oubre, c'est déjà mieux.
Madiane, c'est quoi pour toi, du coup, Kelly Oubre ? Est-ce que c'est, comme on l'a dit, ça se situe un peu entre ce bout de saison du côté de Phoenix, où c'est le meilleur Kelly Oubre qu'on ait vu, et ce début de saison un peu catastrophique avec les Warriors la saison dernière ?
Moi, j'en ai été très déçu, en fait, de Kelly Oubre, et je pense que côté Warriors aussi, parce qu'ils avaient mis très cher, hein, niveau taxe, tout ce qu'ils avaient payé pour l'avoir, et ils pensaient vraiment que ça les aiderait à passer un cap, et... Enfin, ça a été... Ça n'a pas été ce qu'ils escomptaient. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça, mais c'était vraiment moyen. Et au vu de son potentiel, c'est quand même un sacré athlète. Bon, je pense qu'à défaut de mettre ses tirs, parce que ce n'est pas vraiment un gros shooter, c'est un shooter qui va avoir ses séries, mais voilà, c'est dans la moyenne des shooters de la Ligue. C'est ni fort, ni pas fort. C'est vraiment très dans la moyenne. Il faut qu'il apporte un peu plus de tonus défensif. En fait, pour moi, ça doit être le gars qui aura ses options de tir, parce que les défenses feront des choix de faire l'impasse sur lui, sur des rotations. Et bon, bah, s'il les met pas, bah, en fait, ça deviendra de moins en moins grave s'il a d'autres apports sur le terrain, notamment du côté de la défense. Et moi, je pense que dans cette équipe où il n'y a pas spécialement le matériel, ce serait peut-être là où bah, il pourrait avoir une bonne carte à jouer s'il s'y mettait. Mais je ne vais pas attendre de lui qu'il mette des tas de tirs et des tas de points parce que ça m'a pas l'air d'être la direction qu'il doit prendre.
Puis aussi à noter, dans une équipe avec un Lamelo Ball en deuxième saison, voir des cuts, etc. de Kelly Oubre, ça peut être intéressant. Dans une équipe où, vous l'avez dit, ça peut partir en transition, ça peut jouer vite et où il peut trouver les espaces. Après, effectivement, petit bémol, ça n'a jamais été un très grand défenseur. Donc, je pense qu'en fait, s'il arrive à être dans ce milieu qu'on lui a prédit, ça serait déjà une très bonne chose pour ces Hornets qui sont, on l'a dit, peut-être un peu juste. On enchaîne, on reste dans la même division, on part du côté du Heat. Question de Tom, encore une fois. L'arrivée de Lauri va probablement bonifier Bam et Duncan dans le 5. Qu'attendez-vous de cette saison? Alors, vous attendez quoi du Heat cette saison? Je vais commencer par Alan. T'attends quoi?
L'avantage du terrain à l'Est. Je les attends collectivement l'avantage du terrain à l'Est, et donc sur le plan statistique et sur le plan de l'équipe. J'attends qu'ils me montrent, parce que moi je pense qu'ils sont trop top heavy, donc ce qu'on dit, ce qu'on appelle, je trouve qu'ils ont sacrifié leur profondeur pour être très très bon tout en haut. Donc j'attends qu'ils fassent leur saison sans blessure, parce que ils ont 8 joueurs de playoff, je pense, dans leur roster actuel. Alors s'ils arrivent tous en bonne santé et que Spoelstra arrive à bien coacher, ça fera, je pense. S'il y a des blessés, j'ai un peu peur pour eux parce que je trouve qu'ils ont pas de profondeur et j'attends de voir cette année, en fait, est-ce qu'ils vont me sortir un ou deux joueurs qu'ils ont draftés, qu'ils ont développés dans leur équipe de G-League ou quelque chose comme ça, pour pouvoir les incorporer à leur rotation, ce qu'ils font bien depuis quelques années. Donc j'attends de voir, ça va être qui cette année.
Et toi, Madiane, au niveau de Bam et Duncan Robinson, t'attends quoi cette saison avec... C'est intéressant la question de Tom, l'arrivée de Lauri. Donc l'impact de Lauri sur deux joueurs du 5.
En fait, je pense que oui, il va bonifier le 5, et je pense que du coup, il sera plus à même, et je pense que c'est le sens de la question de Tom, de les faire un peu plus briller. Ça va être plutôt ça son rôle, et c'est finalement ce qu'il peut faire, Kyle Lowry. Ça va être un peu différent de Dragic, je trouve, à ce niveau-là. Je trouve qu'il arrive plus à bonifier le collectif qu'un Goran Dragic, même si Goran Dragic reste un bon joueur. Moi, Goran Dragic, je le vois plutôt dans mes yeux comme un espèce de scoreur meneur qui a un peu d'organisation du jeu, mais c'est moins comme Lauri. Je trouve que Lauri a vraiment le côté patron du 5, et il organise l'attaque, et c'est pour ça que ça avait marché notamment avec Kawhi, et que Kawhi s'était très bien intégré. C'est parce qu'il était mis dans de bonnes conditions par un Kyle Lauri. Maintenant oui, il va les bonifier. Mais moi, elle me fait un peu peur, cette équipe, parce que je les trouve quand même limites. Lauri est quand même, sur ses 35 ans, ils ont misé beaucoup dessus. Je ne suis pas sûr que ça va tenir énormément de saisons. Au niveau du tir, ils vont être très dépendants de Robinson, évidemment, mais aussi de la production d'un Tyler Hero. En fait, je les trouve très, très limites, en fait, dans plein de secteurs. Donc, en fait, si ça se goupille bien, ils peuvent être très très forts et très très dangereux. Et je compte sur Kyle Lowry. Mais imaginons que le poids de l'âge fait que Kyle Lowry n'a pas la contribution qu'on attend de lui. Moi, je dis qu'il y a peut-être danger sur cette équipe à un moment. Et donc, je trouve que ça va être vraiment un très bon baromètre de la saison. Si Kyle Lowry est bon, ils vont être très dangereux. Si jamais on se rend compte qu'il est limité et que ce n'est pas forcément le Kyle Lowry qu'on a vu ces dernières années parce que le poids de l'âge, ils peuvent vite devenir comme l'an dernier, c'est-à-dire rien ne va et ça ne tournera pas.
Alors, je crois déjà voir où vous allez partir pour la deuxième question, du coup. Mais on va répondre à... Je vais terminer sur la première. Je trouve que Kyle Lowry, ça va surtout leur permettre une chose, c'est peut-être de multiplier les paniers faciles. L'année dernière, ils n'avaient pas de panier facile, en fait. Ils n'avaient jamais de panier facile. Chaque possession du Heat, tu as l'impression qu'il fallait galérer pour mettre le panier. Et le système très bien huilé qu'on avait vu dans la bulle, c'était complètement enfin il était rouillé pendant la saison régulière. Et je pense que avoir, c'est vrai qu'on en parle, on va en parler tout de suite. Hein. Ils ont un effectif qui est peut-être resserré sur le haut, mais ils ont l'avantage d'avoir dans ces joueurs du haut que des joueurs qui peuvent s'incorporer dans ce qu'ils veulent proposer. Je trouve quand même qu'on peut faire un semi-parallèle entre ce qui s'est passé dans le gros run, le titre des Raptors avec Laurie, et ce qui peut se passer, je promets pas le titre au Heat, hein, mais dans ce qui peut se passer dans le sens où il y a un peu une osmose collective et Laurie peut être un joueur qui va mener tout ça. Pour Bam et Duncan Robinson, Bam, je veux vraiment que Laurie lui offre des paniers faciles et surtout qu'il, grâce à Laurie, retrouve cette agressivité. Et vis-à-vis de Duncan Robinson, je pense que l'impact de Laurie existera, mais sera peut-être moins prégnant qu'avec un Bam, où la relation Bam-Laurie, je pense, peut permettre à Bam de vraiment exploser. Du coup, on glisse vers la deuxième question. Celle-ci, elle est de moi. Est-ce que, selon vous, cette équipe du Heat, elle est plus proche des, je les ai appelés les mastodontes, en tout cas Brooklyn-Milwaukee, ou des outsiders, le reste des équipes à l'Est?
T'entends quoi
moi, j'ai...
par ça? Parce que pour moi, ça dépend si tu me parles de play-off ou de saison régulière.
Je te parle de play-off, là.
Si tu me parles de play-off, ils en seront très loin. Pour moi,
Ils sont plus proches des outsiders.
Pour moi, ils sont proches des outsiders. En fait, je les vois dans les eaux de ce que peuvent être Boston, de ce que peut être Philly en fonction de ce qui se passe. Je les vois plus. En fait, ils sont entre les deux. C'est vrai qu'ils sont...
Cette grimace.
Ils ont un avantage. Ils ont un avantage sur ces équipes-là. Mais au-dessus, c'est le soleil. C'est vraiment très fort au-dessus. C'est vraiment pas leur faire un jour que de dire ça, mais enfin, on parle quand même du champion sortant et du contender numéro 1-1-1-1-1 plus. Donc, t'es plus proche de Boston. Hein. Y a plus de chances que tu te fasses taper par Boston que tu tapes Milwaukee ou les Bucks au complet.
Ah, je sais pas.
Quand même, hein. Milwaukee ou les Bucks au complet, ouais. Le Heat les bas, va falloir m'expliquer sans blessure vraiment ce qui s'est passé. Alors que Boston complet qui bat le Heat complet, je peux l'entendre
ça,
un peu plus.
J'y crois pas une seconde.
Eh ben moi j'y crois.
Je trouve, pour moi, le Heat, si j'ai posé cette question, c'est que pour moi, en fait, le Heat, j'idéalise peut-être, mais ils sont un peu dans un no man's land entre le Milwaukee et Brooklyn qui sont au-dessus, je l'admets, mais dans les équipes outsiders, dans cette conférence Ancestre, je vois des défauts, on en parlera à beaucoup d'équipes, là où eux, ils ont, premier avantage, ils ont un joueur ennemi du DH20, ils ont Butler, qu'on a tous, sauf Alan, et ils ont Bam, qui s'en rapproche fortement, sans compter un Kylori qui serait dans un DH30-35, c'est la seule équipe qui a trois joueurs parmi les outsiders comme ça. Quand tu prends Boston, le gap entre le joueur 2 et 3 est monumental comparé à ce qu'il y a du côté de Miami. Et ils ont en plus cette expérience parce que certes, il y a les petites touches Morris, Oladipo et Laurie, mais c'est un groupe qui, globalement, c'est celui qui est allé en finale NBA. Donc, ils ont cette expérience-là.
Moi, au complet, du coup, pour toi, au complet, le Heat a plus de chances de taper Milwaukee que de se faire taper par Boston ou Philly.
Je les mets dans le no man's land. Pour moi, ils sont pile au milieu. Pour moi, ils sont vraiment...
Ça peut s'entendre.
Je les mets au-dessus de... Vous comprenez, Hawks, Celtics, etc. Pour moi, ils sont au-dessus.
Ouais. Je suis un peu comme toi, Ben. Au début, moi, je pensais que le manque de profondeur, ça allait leur faire peut-être du mal en saison régulière et que ça allait être bien en play-off. Mais en réalité, Kylori, Jimmy Butler, Bam Adebayo dans ton 5 de départ à l'Est, normalement, ça t'assure soir après soir de la qualité, je pense. Après, voilà, moi, j'ai juste un peu de mal sur la profondeur de cet effectif sur la saison régulière où il y a tout le temps des blessures et tout ça, où, en fait, pour moi, un top 3 ou top 4 doit vraiment avoir, pour moi, je sais pas, 10, 11 joueurs quoi, capables de vraiment pour la saison régulière. Et j'ai un peu plus de doutes, mais en même temps, je fais confiance à leur staff, à leur coach de développement personnel, à Spoelstra, pour un petit peu bricoler et faire des bonnes choses là-dessus. Après, Oladipo peut être un bon facteur X aussi. On ne sait pas lequel Oladipo on va avoir. Si le bas court de ton banc, c'est Tyler Hero ou Oladipo, bah même en saison régulière avec moins de profondeur, tu vas être bien. Donc moi je dirais que c'est la troisième meilleure équipe de l'Est, mais je pense que contre les Nets et les Bucks au complet, ils peuvent pas gagner.
Et ben après avoir parlé du Heat, on va enchaîner avec les Hawks et on va enchaîner avec une question qui découle un peu de celle du Heat. Probablement l'équipe la plus profonde pour la saison régulière en dehors des Nets, nous dit Tom, finira-t-elle dans le top 3 ? Ici, on parle de saison régulière. Donc, est-ce que ces Hawks-là peuvent finir top 3 saison régulière ? Madiane, je te vois sourire.
En fait, je dirais que j'aurais dit oui certainement si on était sur un même format quasiment que la saison dernière, où là, la profondeur a énormément compté, le fait d'être en santé était très compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Là, j'ai l'impression que quand même, ça va être plus simple et donc du coup, c'est moins un facteur. Mais c'est vrai, il faut le noter, que la profondeur des Hawks, quand je l'ai re-regardé, elle est impressionnante. Même, tu regardes un mec qu'ils ont signé vite fait, un TLC, il jouait, hein. Il jouait au net. Donc, enfin, même cette petite signature de rien du tout, je me dis, mais attends, lui aussi, il peut jouer. Et
Dylan Oed, Gorgui Dieng, TLC, c'est des mecs du bout du monde qui jouent à l'envers.
Exactement. Et du coup, moi, je vois qu'ils peuvent être à 11, 12, 13, en fait. Donc, la profondeur est extrêmement impressionnante, clairement. Mais j'ai pas l'impression que ce sera un facteur si déterminant que ça sur ce format de saison. Donc, hormis surprise, je trouve qu'ils vont jouer l'avantage du terrain. Mais un top 3, ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose aux alentours, notamment ben, du coup, Heat, dont on vient de parler, ou Philly.
On en parlera de Philly pour moi. Bref, vous verrez ma question pour Philly. Du coup, Alan, on sait que ces Hawks sont le berceau de ton ami Tréon. Est-ce que ça peut finir top 3 saison régulière ? Je pense qu'on a tous compris que ça sous-entend derrière Bucks et Nets.
Ouais, la prunelle de mes yeux. Je pense qu'ils sont à la bataille, clairement. Clairement, pour moi, ils sont à la bataille pour 3-4. Franchement, ils ont la confiance de ce qui s'est passé l'an dernier. Je pense que ça va aider. Sous Macmillan, c'était une des meilleures équipes de l'Est. Quand il y avait eu ce changement, on avait fait podcast tous les trois. D'ailleurs, je crois sur les Hawks mi-saison l'an dernier où bah, on commençait à se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'un et l'autre. Bah, il a réussi à débloquer John Collins un petit peu. Il a réussi ce qu'il a fait avec DeAndre Hunter qu'ils vont récupérer, c'était super bien. Moi, comme je l'ai dit, ils sont super profonds. Il y a de tout en fait. Le niveau, tu auras toujours Trae Young ou ils ont Lou Will en saison régulière. Ça va aider. T'as Bogdanovic, Werther, donc là c'est les quatre joueurs de ta base arrière. T'as DeAndre Hunter qui va revenir. Et Colin, c'est un très très bon joueur de saison régulière. Ils ont Capella qui est un très très bon joueur de saison régulière qui joue beaucoup de matchs en plus. Donc sans blessure, je pense que cette équipe-là, elle est super intéressante. J'ai oublié Danilo Gallinari qui est là aussi. Franchement, je les vois vraiment. Franchement, c'est aujourd'hui on me demande, je les vois vraiment un peu plus haut que les Boston, Indiana et tout ça. Et donc je les vois dans la même course que peut-être pas que Miami, mais que Philly et tout. Donc ils peuvent vraiment finir quatrième, troisième, c'est chaud. Mais je pense qu'ils peuvent clairement viser davantage.
Et leur banc va ouvrir tout ce qui bouge à l'Est. Hein. Vraiment, leur banc, il y a une profondeur et il y a une qualité aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant pour eux. Limite, on se posait des questions sur le banc parce que dans un modèle très héliocentrique, c'est souvent quelque chose qui peut pêcher parce que en fait, tu changes de façon de jouer quasiment d'un seul coup. Mais en vrai, là, avec la qualité des joueurs qu'ils ont... face à ce que leur banc va affronter, je pense qu'ils vont ouvrir des bancs très forts et que ça leur permettra de gratter pas mal de matchs.
Moi, je vous avoue que je veux bien vous donner la réponse dans un mois, parce qu'en fait, quand on regarde leur début de calendrier, leurs 5-6 premiers matchs, ça va. Après, ils nous font à Brooklyn, ils reçoivent le Jazz, ensuite ils se déplacent à l'Ouest, Suns, Warriors, Jazz, Nuggets, ils reçoivent les Bucks. Bon, il y a la petite trêve Orlando, et puis il y a Boston. Donc, tu as 7 matchs compliqués, 6 ou 7 matchs compliqués dès le début. Et si tu pars bien là, on sait qu'avec une jeune équipe, tu peux te lancer. Donc, je veux bien vous répondre dans un mois.
Moi, j'ai une question subsidiaire par rapport à ça. Être troisième à l'Est, c'est combien de victoires, à votre avis?
Il flirte avec les 50.
48, ouais.
Ouais, moi, je dis que ce sera moins de 50. Je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit gap et que ce sera moins de 50. Et du coup, ça peut passer, hein, et tu peux paumer des trucs avec 50 victoires.
Après, se méfier toujours, c'est, on en parle parfois de ce journaliste, enfin Ben Taylor, qui fait une chaîne très connue sur YouTube, explique toujours que chaque saison, il y a une équipe qui perfore complètement les prévisions de pré-saison. Donc on pourrait imaginer qu'une équipe les perfore et finisse dans ce troisième strapontin. Ça pourrait être, je sais pas, Indiana, etc. Il y a toujours une équipe qu'on voit pas du tout venir qui explose. Je vois Madiane qui fronce. Je vais faire écouter à Madiane les bandes sur les Knicks à la même période de l'année. Donc il y a toujours une équipe qui perfore les. Donc ça pourrait être l'équipe qui finit troisième de cette conf Est. Dernière question sur les Hawks par rapport au développement des jeunes joueurs, par rapport à la compétitivité, parce que là on parle d'une équipe qui peut espérer finir troisième à l'Est. Ça veut dire potentiellement espérer une demi-finale de conf, voire rêver d'une finale de conf. Alan, comment tu jongles entre le développement de tes jeunes joueurs, la question du contrat aussi, parce qu'il y a certains qu'il va falloir prolonger, et les impératifs de résultats?
Ouais, l'argent a déjà été donné à des joueurs en plus. Collins, Trae Young, Werther a été payé en début de semaine. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, Onyeka Okongwu est un meilleur joueur que Gorgui Dieng? Je sais pas. Si ça peut être, je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel. Mais c'est un mec qui sont drafté 6e choix il y a un an. Mais ils vont toujours vouloir être compétitifs, donc quel choix va être fait? Pareil pour Cam Reddish, c'est un joueur qui a des flashs, je trouve, incroyables. Il y a de la continuité, la répétition, ça a toujours été un petit peu son problème depuis longtemps d'ailleurs. Le souci, c'est qu'ils ont pris un mec comme Timothée Leucabarro, ils ont la capacité, je pense, à jouer petit aussi, avec potentiellement Louis Werther Bogdanovic ou Trae Young Werther Bogdanovic avec un Hunter en 4. C'est la possibilité de faire des line-up à 3 petits. Donc, quid de Reddish là-dedans? En fait, là, j'attends de voir l'allocation des minutes qui va être donnée à Reddish et Okongwu, parce que c'est deux top 10 de draft dans une équipe qui a des angles. Trae Young veut aller en finale NBA, je pense. Hein. Enfin, veut aller en finale de conf. Hein. On connaît les sportifs. Les sportifs ont souvent une grande confiance en eux. Ils se sont vus. Bah, t'as deux matchs des finales NBA quand même, l'équipe qui gagne en finale. J'attends de voir comment ça va être un petit peu jaugé par Macmillan, qui pour moi fait un sans faute depuis qu'il est là. Comment il va faire avec Okongwu et Reddish, en fait. Voilà.
Très bien. Quelque chose à rajouter, Madiane?
En fait, c'est très bizarre comme configuration, parce que finalement, c'est une équipe qui, du coup, a trouvé sa base centrale, et qui, au lieu de compléter des role-players vétérans, a des pics de a des prospects, en fait, en joueurs de complément. C'est super bizarre, en fait. Et en plus, ils ont déjà des vétérans, Bogdanovic, Gallinari, qui sont là pour jouer ces rôles-là. Donc, en fait, ils ont les deux. C'est pour ça qu'ils sont aussi profonds. C'est qu'ils ont à la fois des joueurs qu'ils ont signés, des vieux briscards de la Ligue, et en plus, des types qu'ils ont draftés. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça parte de l'effectif à un moment ou à un autre, surtout s'ils affichent des ambitions, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à trouver leur place, et que si tu veux gagner, bah, tu vas plutôt te tourner vers des joueurs plus confirmés.
Ça peut être un roster à trade, ouais. Franchement, ça peut être
un roster à trade.
Dans 18 mois, ça. Enfin,
il y a encore eu un mec drafté avant, top 20 là, fort avant. Potentiel. Ils ont toujours drafté des mecs à fort potentiel en plus, donc il y a le biais de jeunesse et du potentiel qu'ils peuvent vendre à des équipes. Donc ils ont beaucoup drafté au premier tour ces derniers temps, donc il y a plein de petits joueurs.
La valeur d'échange qu'ils ont avec leurs assets est très supérieure à la valeur terrain qu'ils en tireront. C'est ça, c'est toujours ça les prospects. Ce que tu as sur le terrain n'est pas ce que tu pourras obtenir dans le cas d'un trade. Et donc, ça te pousse tellement à échanger ce type de scénario que j'ai du mal à les voir rester même après la trade deadline. Parce que si tu les trades maintenant, l'équipe qui va les recevoir voudra les avoir 6 mois pour savoir s'ils les prolongent. Parce qu'il y en a certains où la deadline pour les signer, c'est à la rentrée prochaine.
Après, jurisprudence Wendell Carter, tu vois. À voir si tu as eu peu d'infos ou moins d'infos sur le joueur, pourquoi pas tenter le risque après. Mais en tout cas, on en a fini avec les Hawks et on va enchaîner par les Celtics. Je vous promets, cette question vient de moi. Les questions étaient préparées il y a 2-3 semaines. Elle n'est pas du tout liée au premier match qu'a réalisé Jaylen Brown. Ma question, c'est: Jaylen Brown peut-il être All-NBA? Alan, c'est les Celtics, je te donne la parole.
Alors, j'ai beaucoup de mal à cette question parce qu'en fait, ça dépend. Est-ce qu'on le prend comme guard ou forward? Et déjà, dans les deux cas, on va pas se mentir, s'il est au NBA, c'est incroyable parce que la profondeur sur les postes est top. Jaylen Brown n'a jamais été, je pense, susceptible d'entrer dans mon DH20, mais pour moi, c'est un des 20, il est dans le top 25, quoi. Il s'en rapproche, la progression est linéaire, on en a tous déjà parlé, c'est impressionnant. Bon, le match d'Enix, j'en parle pas parce que le niveau de shot making était complètement irréel. Enfin, ce qu'il a fait, c'était assez ouf. Mais être au NBA, ça voudrait dire, alors, sur les guards, ça voudrait dire, Kyrie est pas là, ça peut-être bien, mais ça veut dire passer devant, Luka, James Harden, Damon Lillard, Stephen Curry. T'as souvent ces quatre-là, ils sont un peu dans les deux premiers, puis après, ça veut dire que, Ja Morant fait aussi un énorme début de saison, Devin Booker, Chris Paul. Darren Fox, Donovan Mitchell, il y en a énormément, Trae Young, il y a peut-être beaucoup plus de chances d'être au NBA que Jaylen Brown, selon le poste, selon la saison, réussite collective. Et après, les forwards, Kawhi n'est pas là. Kawhi, Kyrie ne sont pas là. C'est deux gros candidats qui peuvent être des remparts à Jaylen Brown, mais LeBron, KD, Paul George, même Tatum, hein, c'est pas parce que le match s'est déroulé contre Enix d'une certaine façon que d'un coup c'est l'équipe à Brown, comme tu peux lire, ou des choses comme ça.
Il y a des personnes qui analysent comme ça le basket au bout d'un match.
Oui, mais les hot takes sont faciles en début de saison, mais donc je pense que ça sera compliqué, mais ça veut pas dire qu'il va encore pas passer un cap et qu'il peut. Ça peut-être, c'est lui sûrement peut-être l'ultra profondeur en qualité qu'on a actuellement.
Ça sous-entend, tu es très corporate, Alan, c'est très bien, qui peut ne pas être au NBA, mais rentrer dans un DH20. Ça, c'était une de mes hot takes que j'ai pas dit en fait. Bref, pour moi, Jaylen Brown, c'est un des mecs qui va pousser fort dans le DH20 à la fin de la saison. T'en penses quoi, Madiane? Et puis ensuite,
Ça me ferait plaisir, ça veut dire que je suis bien. Ça veut dire que collectivement, on va bien.
Quand on a deux, t'es bon. Ouais. Et Madiane, Jaylen Brown au NBA, et ensuite, je te lancerai sur Robert Williams. On a un petit pari de Tom sur les minutes jouées.
Alors, sur Jaylen Brown, je l'avais scouté il y a 2 ans. Maintenant, ça fait déjà 2 ans. Et ce que j'avais noté, en fait, au fur et à mesure, c'est qu'en fait, il progresse tout le temps, mais dans tous ses compartiments du jeu. C'est ça qui est super impressionnant. C'est que moi, je disais, c'est typiquement dos au panier. Il flashait vers le panier, il arrivait à faire des moves. Il a rajouté plein de nouveaux outils à cet arsenal et même de la passe, en fait. Et tu vois qu'en fait, chaque année, tu le revois et tu dis... Mais il a rajouté un truc là, il shoot mieux depuis cet endroit-là. Maintenant, il peut faire des jump shots. Alors il a eu des événements malheureux hier malgré son énorme perf. Moi je pense que il a tellement une progression linéaire que on pourrait être étonné. Mais s'il n'y a pas un truc très étonnant de sa part qui le fait discuter fort, c'est bouché, c'est clairement bouché au niveau. Enfin, il y a trop de monde. Hein. Enfin, être au NBA, c'est hormis des fois sur certains postes de pivot, des fois on a eu des trucs un peu.
DeAndre Jordan.
Un peu bizarre. Hormis là, sur tous les autres postes, que ce soit guard ou forward, c'est tout le temps bouché. T'as tout le temps des monstres qui pullulent dans le BH1. C'est justement, il n'y a que le poste de pivot où tu peux en arracher un. Sans être forcément dans le DH20, c'est dire. Donc, À mes yeux, il ne peut que grosse perf, mais en tout cas, moi, je ne suis pas surpris s'il progresse cette année et si je le vois faire encore plus de choses et si finalement Boston se retrouve avec un deuxième joueur qui rentre dans le DH20 à la fin de la saison.
Et le petit pari Robert Williams. Robert Williams a joué plus de 30 minutes dans un seul match depuis qu'il est en NBA. 20 matchs. Si on vous devait parier sur plus ou moins 20 matchs, vous pariez sur plus de 20 matchs. Alan me fait le signe. Alors là, on est clairement sur le mec qui va mettre son PEL sur le plus. Alors, du coup, est-ce qu'on met sur plus ou moins? J'ai l'impression plus, Alan. Je suis d'accord aussi. Au vu du... On en parlait en off du premier match et globalement de la construction de l'équipe.
Il a joué 45 minutes hier.
C'est un bon indicateur, quoi. Je pense.
Les gens diront prolongation, oui, mais il a quand même été capable de rester 45 minutes sur le terrain.
Ce qui est une grosse perf pour un intérieur, quand même. Donc on est tous d'accord, on prend le over, on met.
En plus, extension, il mise sur lui. Enfin, sans l'extension, vraiment... on aurait pu en douter. Là, en le prolongeant,
il est vraiment incroyable. Défensivement, il est. Le dernier carton qu'il fait en indiv sur Randle, enfin il avait été mis sur Randle, et assez incroyable, je trouve. Il a des capacités assez ouf. Faut qu'il joue plus de 30 minutes.
Moi, j'adore vraiment ce joueur. Enfin, les gens qui nous écoutent peuvent comprendre le type de joueur que j'aime et ils rentrent complètement dans ce moule. Là, ça va être un peu plus compliqué niveau joueur qu'on apprécie. On va partir du côté des Cavaliers. On vous l'avait dit, il y a une équipe qui est un peu plus en difficulté par rapport aux autres dans cette preview. Ce sont les Cavs. Et on va d'abord se demander comment se débrouiller avec l'embouteillage à l'intérieur. Parce que c'est vrai, les Cavs ont décidé beaucoup de miser sur les intérieurs. On a toujours Kevin Love qui est encore là. On a eu la draft d'Evan Mobley. Jarrett Allen a été prolongé grassement. Et il y a eu le trade pour Lauri Markkanen. Madiane, je te vois réfléchir. Je te vois vraiment, ça fume. Comment on se débrouille
alors, du côté des Cavs? Moi, je pense que déjà, faut virer tous ceux qui prennent les décisions basket dans la franchise ces derniers temps. Non, mais honnêtement, je pense que si tu me mets proprio, ils sont. Enfin, est-ce que vous les gardez? Vous devenez proprio demain des Cavs, vous les gardez? Honnêtement, vous regardez l'effectif et vous dites « Ouais, super reconstruction les gars, on continue. » Non mais honnêtement, la prolongation de Jarrett Allen, moi ça m'a... Non, enfin déjà il faut libérer Kevin Love. Le gars n'a pas envie d'être là, mais avec son salaire à qui tu vas le balancer, enfin pour moi c'est faut juste le libérer. À la limite, tu peux jouer avec Allen, Markkanen, mais la construction d'effectifs qu'ils ont, elle est scandaleuse. Enfin, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait avec les choix qu'ils avaient, etc. Ils vont rester nuls comme ça pendant combien de saisons? Non mais vous rigolez.
J'aurais pas dû lancer Madiane.
Non mais vous rigolez. Non mais c'est dramatique. C'est dramatique. C'est quoi le projet? C'est Colin Sexton ou c'est Darius Garland aux arrières? Ils ont pris Lauri Markkanen, ok, mais en fait ils vont en faire quoi? C'est quoi l'idée avec Lauri Markkanen, avec en plus le prix qu'ils vont payer? Enfin, moi je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Je comprends pas ce qu'ils font. Je vois pas le projet.
Est-ce qu'il y en a pas un de trop?
Ah mais pour moi déjà
trois là en gros il y en a quatre qui se dégagent. Tu peux te dire qu'à 3 ça va, mais là c'est qu'il y en a un de trop.
Ouais, mais il faut que tu réussisses à te débarrasser de Kevin Love. Enfin, du coup, si t'en as un à sortir de l'équation, c'est Kevin Love. Mais du coup, tu fais comment? Deux ans de salaire à plein tarif, il y a personne qui en veut. C'est même pas pour une.
Tu buy out.
Ouais, tu vas buy out.
Mais Love attends, a déjà dit qu'il voulait pas. Hein.
T'as voulait deux pas. Saisons. Bah non. Il va rien laisser sur la table, ouais, Kevin Love. Il en a rien à foutre. Il a déjà sa bague, hein. Kevin Love, il a sa bague et il veut son salaire. C'est ça. Si encore c'était un vétéran qui avait été All-Star, etc., et qui était à la recherche de sa bague, il aurait peut-être pu laisser un peu d'argent.
Black Griffin.
Ouais. Mais... Non, du coup, lui, il a sa bague et en plus, il l'a gagné avec eux. Donc, t'inquiète pas qu'il va pas leur laisser un dollar. Donc, c'est une mauvaise opération. Et la prolongation de Jarrett Allen... C'est indescriptible.
Alan, sauve-moi, dis-moi un truc positif.
Ouais. Ah ouais, ils ont fait quoi de bien, Alan?
Moi, je trouvais ça intéressant parce que Kevin Love, pour moi, n'est pas dans l'équation, en fait.
Vraiment, il faut pas le mettre.
Mais je trouvais ça bien sur 48 minutes de jeu intérieur d'avoir tout le temps sur le terrain deux des trois, Mobley, Markkanen, Allen. Parce que Markkanen est un shooter, Mobley peut s'écarter, les profils semblent complémentaires. Le problème, c'est que JB Bickerstaff, il a starté les trois en même temps contre Memphis. Donc ça, j'ai vraiment pas compris. Alors, c'est vraiment surutiliser la polyvalence de Evan Mobley. Le mec a 19 ans, on lui demande déjà de faire des trucs. Enfin, c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment un super prospect. Enfin, il était pas là où il était drafté pour rien. Mais j'ai pas envie qu'on lui demande non plus de driver depuis la ligne des trois points. J'ai pas envie qu'on lui demande. J'ai envie qu'il a mis des paniers incroyables. Hein, si on veut l'avoir contre Memphis dans son premier match, mais franchement, c'est pas la meilleure maximisation. Mais moi, je trouve ça toujours bien d'avoir les trois dans ton effectif qui se partagent les minutes. Parce que je pense qu'il peut y avoir complémentarité. Oui. Le souci, c'est qu'il faut pas qu'ils jouent ensemble, quoi. C'est pas, je comprends pas. J'aimerais qu'il explique son projet. Je le comprends pas.
Est-ce que c'est pas lié à la deuxième question, les gars? La deuxième question, avec de petits arrières plutôt offensifs et de grands intérieurs plutôt défensifs, qui pour faire le lien? Est-ce que c'est pas un peu ça aussi la réponse? C'est qu'il y a pas de, ça manque peut-être de liant entre base arrière et front court.
Et en plus,
ils sont draftés Isaac Okoro. Essaye. Ouais. Enfin, t'as quoi à perdre?
Et en plus, Isaac Okoro, de ce que j'avais compris, Alan, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est plutôt un joueur qui était là, c'était un pari. C'était, on le prend, il n'est pas forcément du coup là pour directement produire, mais c'est un plan pour plusieurs années. Mais ils en font rien et moi je trouve ça dommage parce que tu vois typiquement moi j'ai en très haute estime Darius Garland. Moi je le trouve extrêmement intéressant. Il a eu du mal à s'adapter au jeu NBA, mais moi j'adore ce joueur. Moi je pense qu'en fait typiquement faut arrêter de demander la terre entière pour Sexton. Ça aussi.
Je pense qu'en fait il y a la réponse dans ta question, Madiane. C'est-à-dire pourquoi on se presse autant avec Okoro, c'est qu'en fait ça fait 4 ans qu'on a démarré cette reconstruction du côté des Cavs et il est où le précieux en fait? C'est qui le précieux de la reconstruction?
Ah, on l'a pas. Hein.
On l'a pas.
C'est peut-être Mobley, sauf qu'en fait ils peuvent pas dire que c'est le précieux.
Il vient d'arriver.
Parce que c'est, il a joué. Voilà.
Donc tu vois, il y a peut-être cette question de on est obligé peut-être de rusher parce qu'on n'a pas le... Enfin, au bout de 4 ans de reconstruction, tu as en droit et de te dire en tant que front office et à ta fanbase, on a le joueur sur lequel on va baser notre prochaine bonne équipe. Tu n'es même pas sûr de ça de leur côté.
Ouais, mais du coup, si tu n'es pas sûr de ça, pourquoi tu gardes Sexton? Je sais que ce n'est pas le cas. Si on part du principe qu'ils savent que ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'ils demandent apparemment, hein, qu'ils demandent des choses assez lunaires pour l'envoyer ailleurs?
Parce que c'est se désavouer et les front office NBA le font ça. Ouais. Jamais.
Puis c'est les reports qui sortent, mais on n'est pas dedans non plus, on ne sait pas. Peut-être qu'ils attendent, ils pensent qu'ils pourront matcher quelque chose qui sera peut-être pas si exorbitant que ça, parce qu'ils peuvent compter sur lui. Mais la question elle est bonne, parce que ce qui fait défaut à cette équipe-là aussi, c'est qu'un mec comme Cedi Osman, sur lequel ils avaient investi, ou d'autres joueurs, un peu voilà, dans ces combos 3-4, sont plus là, comme Larry Nance, ou sont pas bons. Ou pas à un niveau comme Osman. Donc ça force un petit peu ce déséquilibre. Et ils veulent jouer sur le déséquilibre, mais ils sont peut-être un peu obligés. Mais juste, même si tu es déséquilibré, tu peux pas starter 3 mecs à 2-10, je pense. C'est pas viable. Même si Markkanen a fait du spot-up à 3 points. Hein, mais je pense que ça serait peut-être mieux d'avoir Markkanen en 4, qui joue du pick and pop avec un mec comme Garland. Mobley et Markkanen peuvent jouer du pick and pop, mais si t'as les deux sur le terrain avec Allen, il n'y a pas de pick and pop, hein. Donc je trouve que c'est se limiter un petit peu. C'est sûrement un bien meilleur coach que moi, mais je comprends pas trop, et surtout je pense que le développement des mecs va peut-être en être impacté.
Après, pour clore peut-être ce débat Cleveland, le développement des joueurs, quand tu es passé d'une équipe de vétérans qui avait ces ambitions là version LeBron James, tu as fait table rase, politique de la terre brûlée. Les Sexton, etc., ils ont toujours joué dans une équipe jeune, déconstruite, sans vraiment d'ambition. Donc, on en parle assez souvent de ça. C'est peut-être pas parfois le meilleur terreau pour un peu développer les joueurs.
Il y a quand même beaucoup trop de choix douteux. Le choix du coach était extrêmement douteux il y a deux saisons. Enfin, il y a quand même des choses qui, enfin.
Je crois que Tom était content de plus trop le voir après le Memphis, hein, personnellement.
Non,
je
mais
crois.
Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment, enfin, tu t'es greffé. Pourquoi pas récupérer un joueur? Enfin, ils avaient le coup de dans les trades, ils s'infiltraient. À s'infiltrer en troisième équipe et discuter. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand tu es en train de te développer, de toujours discuter, parce qu'il y a toujours moyen de gratter des choses qui vont arranger tout le monde et toi, tu récupères un prospect ou quelque chose. Il récupère Jared Allen. Moi, je l'ai toujours trouvé meilleur que DeAndre Jordan quand on avait les deux ensemble. Moi, je me disais, il n'y a pas photo. C'est Jared Allen qu'il faut garder. Bon, l'autre était pote avec les deux Zigoto, donc il y avait plus de chances de rester. Mais derrière, contre qui tu te battais pour filer un contrat aussi énorme sur autant de saisons? Contre qui tu te battais? C'est ça que je comprends pas.
Bah, ça, on le saura jamais. Ça,
après, on
le saura
on se
pas.
Se bat les gars contre le chrono. Et on est beaucoup trop long sur les cases. Donc, on enchaîne. Donc, voilà. Et on va enchaîner avec les Bulls. Alors, les Bulls, les fans des Bulls pourront nous pardonner. On a déjà fait une émission complète. C'est la dernière équipe qu'on a disséquée avec Adrien, notre fan des Bulls, qu'on salue il y a quelques semaines. Donc, on va peut-être aller un petit peu plus rapidement. Pour lui faire honneur, les deux questions sur les Bulls ont été posées par Adrien. La première, malgré la belle intersaison, combien de places ces Bulls peuvent-ils vraiment gratter à l'Est mieux qu'un top 8? Je pense, oui. Perso, je pense qu'ils peuvent gratter. Ils sont dans ce ventre mou à l'Est.
Si ça tourne comme ça doit tourner, effectivement, ils ont vraiment le matériel pour s'épargner un play-in. Je pense que même ça doit être leur objectif dans leur tête de dire... L'objectif, c'est de s'épargner le play-in. Et c'est possible. C'est possible dans une configuration à l'Est où je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts, entre guillemets, qu'une équipe qui a fini avec l'avantage du terrain l'an dernier. Donc,
moi, je suis pas rassuré par la profondeur de
ce équipe. Oui, la profondeur, oui, mais...
C'est ce que je disais hier soir, Adrien, en parlant. J'ai pas vu le match contre Détroit. Parce qu'il n'y avait pas Cade, donc j'avais pas regardé un Bulls Pistons. Mais je suis pas rassuré par le banc de cette équipe, en fait. Alors oui, il n'y avait pas Coby White, mais je liste les joueurs qui sortent du banc. Tony Bradley, Troy Brown, Alex Caruso, Tyler Cook, Ayo Dosunmu, Javante Green, Alize Johnson, Derrick Jones.
C'est
je pense que s'ils sont de très bons candidats à du buyout, mais vraiment, parce que il va falloir un petit peu. Alors le 5 est, ils sont top heavy, pas autant que Miami, mais le 5 est bon, franchement. Mais sur une saison régulière, je pense que franchement, des équipes comme Boston, Indiana, Atlanta serait devant. Ben, donc,
moi, je pense que tu peux exploiter en fait finalement un des joueurs de ton 5 pour jouer plus longtemps avec ton banc. En fait, tu vas jamais faire des rotations 5-5 parce que.
Oui, soit Lavine, soit DeRozan.
Et surtout DeRozan. Moi, je pense que DeRozan a exactement le bon profil parce qu'on a vu qu'il avait beaucoup progressé sur le playmaking et je pense qu'il peut faire tourner le banc.
Ouais, mais il faut des shooters à côté alors.
C'est ça qui est un peu compliqué, mais je pense clairement qu'un DeRozan sur des bancs, tu le fais sortir plus tôt, tu le fais revenir avec le banc, je pense que ça peut être typiquement une formule à adopter et qui leur permettra de tenir. Moi, je pense qu'ils sont tellement larges en fait sur leur 5 de départ qu'il va falloir trouver la bonne combinaison de rotation et moi, je miserais sur un DeRozan qui passerait plus de temps avec le banc.
C'est ce qu'on avait, on avait parlé un peu de cette dimension-là pendant l'épisode consacré aux Bulls. Il manque de two-way players, il manque de joueurs capables d'impacter en attaque et en défense.
Ouais, c'est là cher, où, ça.
Bah, même à un niveau... c'est-à-dire que là, il y a soit toi, la jauge, soit elle est à fond vers l'attaque, soit à fond vers la défense. Il y a très peu de joueurs un peu équilibrés, même nuancés. Et du coup, la deuxième question d'Adrien, la pénurie à l'intérieur, notamment en protection de cercle, sera-t-elle préjudiciable pour l'ambition des Bulls sur une saison régulière? Peut-être. Ça, on parlera surtout de ça en play-off ou play-in. Ça dépend où ils seront, je pense.
Bah, parce qu'il n'y a pas de backup pivot dans cette équipe. Il y a pas de. Donc oui, c'est assez problématique. Tu mets Daniel Gafford à cette équipe-là, je t'en parle autrement, vraiment. Alors après, ils se sont mis dans ce deal avec Washington. Je crois que c'était pour récupérer Tice aussi. Il y avait cette chose, mais Tice n'a pas été conservé. Il manque ça, ouais. Il manque ce truc-là. En saison régulière à l'Est, si t'as DeRozan et que t'arrives à trouver une ou deux formules avec des shooters à côté, offensivement, ça va le faire, mais ça peut vraiment. Ils sont candidats à un buy-out sur un pivot, je pense vraiment.
Qui sont toujours remplis de succès. C'est vraiment toujours des très bonnes affaires, les buy-out.
Tu vois, regarde, Derek Favors coupé par OKC. On peut finir là-bas.
Bon, après, est-ce que c'est. Je rappelle, la seule saison de Favors en dehors de Utah, c'était pas incroyable.
Ouais.
Donc méfions-nous. Méfions-nous de Favors.
Mais là, c'est Marco Simonovic. Ouais. Hein. Je pense pas que tu connaisses Marco Simonovic.
Mais en vrai, j'ai pas fait le scouting.
Il faut faire gaffe. Hein. Ouais. Utah, c'est quand même un microcosme bizarre parce que même Whiteside, je l'ai trouvé pas mauvais hier, j'ai pas compris.
Méfions-nous. En tout cas, du coup, on a un peu accéléré sur les Bulls, mais on vous invite à aller réécouter le podcast spécial Bulls, parce que rien n'a vraiment changé depuis ce moment-là. Et puis, on va terminer avec deux gros morceaux. Ah. D'abord, les champions en titre, les Bucks. 3 MVP en 4 ans s'ils gagnent le prochain. On parle de Giannis, bien évidemment. Seuls Bird, Magic et LeBron l'ont fait depuis 1980. Est-ce que du coup, Giannis est disqualifié d'office à cause du poids historique de cet exploit, hein, d'avoir 3 MVP de saison régulière en 4 ans? C'est une question de Tom. J'ai envie de vous griller la priorité. J'aime bien parler du MVP. Je vais dire non.
Je t'en prie.
Parce que il y a quelques années, je m'attachais beaucoup à ces considérations-là et j'ai l'impression que maintenant, les votants votent pour le mec qui, selon eux, le mérite et considère de moins en moins l'histoire. Pour moi, c'était impossible de voir un doublé défenseur de l'année MVP. Il a été donné. Donc, je pense que si on se base uniquement sur est-ce qu'il est disqualifié d'office, non. Il peut avoir le MVP, Giannis, je pense.
Et pour moi, je vais compléter là-dessus, rien que par le fait qu'on n'en a même pas parlé, alors que, enfin, encore comme d'hab, ses stats, c'est n'importe quoi. Et sa saison, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, l'an dernier, on en a parlé. Le débat, c'était Jokic et Embiid. Giannis, il y avait même LeBron avant qu'il se blesse. Giannis, il fait une saison. C'est une vraie saison. C'est pas la petite saison. Et moi, je pense que comme il l'a pas eu et qu'il a même pas été dans la conversation l'an dernier, il se peut qu'il revienne fort là cette année parce que j'ai quand même la sensation que les Bucks peuvent avoir un très très bon bilan et que le bilan ça va forcément jouer, qu'il va noircir très fortement la feuille et j'ai du mal à voir émerger une grosse puissance à l'ouest avec un énorme bilan supérieur à celui que les Bucks pourraient avoir. J'ai pas l'impression que les Nets auront un meilleur bilan qu'eux pour d'autres raisons et du coup face à cette double possibilité, à mes yeux, ça peut être le MVP de la saison et plus qu'on ne le pense.
Je rectifie, c'est Tony Bradel, backup pivot, les fans des Bulls ont été énervés.
Ah oui, en plus tu l'avais cité. Ouais.
Oui,
je l'avais cité. On enregistre très tard, on enregistre jamais aussi tard d'habitude.
Moi, c'est mon favori, Giannis, pour le MVP. Parce qu'il va planter, il va faire le 32-14 et ça va être une machine de saison régulière. On va avoir un des trois meilleurs bilans de la ligue et après il faudra discuter entre qui a le meilleur impact et lui il influe des deux côtés du terrain et je pense que oui, il peut clairement l'y être et l'histoire de narrative si on a un mec qui est dominotant et qui est tout en haut, je pense qu'elle sera un petit peu annihilée. Donc je pense que il est vraiment dans les gros gros favoris
Pour moi, les seules disqualifications d'office qui peuvent exister, c'est du quasi hors basket. C'est ce qui s'est passé dans un trade ou une chose comme ça. Ça peut disqualifier, mais sur du terrain de l'histoire, maintenant, j'y crois plus.
Harden, l'an dernier, aurait jamais pu être MVP.
Par exemple. Pour moi, alors, c'est impossible. Ouais. On ne saura jamais, mais pour moi, Kevin Durant, première année aux Warriors, ne pouvait pas être MVP. Enfin, bref, au niveau de tout, je sais pas,
LeBron 2011 pouvait pas
exactement
être MVP.
Le récit autour.
Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu le plus jeune MVP de l'histoire, mais ça, je laisse Adrien se scandaliser de cette petite phrase.
Et du coup, ma question de Bibi, inquiétude défensive, point d'interrogation. Moi, j'ai l'impression, les gars, je vais étayer un peu la question, il y a de plus en plus de shooters, il y a de moins en moins de défenseurs du côté des Bucks. Ça m'inquiète un peu. J'avais été critique avec l'arrivée d'un PJ Tucker. Il a été, je dois m'avouer vaincu, il a quand même... Alors, c'était loin d'être parfait offensivement, c'était limite.
Ouais. Ouais.
Mais défensivement, il était meilleur que ce que je...
L'énergie qu'il a apportée sur les rebonds a été décisive à certains moments.
Exactement. Enfin, il a eu vraiment un vrai impact. Est-ce que ça vous inquiète aussi ? Là, on est plus, vous le comprenez, dans la considération de play-off deuxième tour, à partir de deuxième tour. Quoi.
Ouais, c'est... En gros, la question sous-jacente, c'est est-ce que Grayson Allen, George Hill et un mec comme Jordan Nora qui joue plus peuvent jouer en playoff, quoi, sans te...
Ouais, et c'est surtout, est-ce qu'il y a un moment où, surtout sur... Alors, la ligne arrière, t'auras toujours Jrue Holiday qui fera un taf pas possible, mais quand tu sors Jrue Holiday, tu t'en sors comment avec les mecs autour de Giannis, un peu?
Bah, ils récupèrent DiVincenzo. Qui était absent, ouais. Surtout la campagne de playoff, ça va aider. Pour remplacer Tucker, qui n'est pas remplaçable, ils ont signé Ogeleye. Alors lui, c'est pas de l'attaque, hein. Je peux le dire, hein. Je suis bien placé. C'est que de la défense et du corner. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Je comprends moins le fait de reprendre un George Hill ou d'aller donner une extension à Grayson Allen, qui est un bon joueur, hein. Mais dans un setting playoff avec déjà Jrue Holiday, du DiVincenzo, j'aurais peut-être fait un choix différent. Après, j'attends de voir comment ils font, parce que pour l'instant ce front office couplé avec Bud font quand même des choses assez intelligentes.
T'as oublié Thanasis. Vas-y, ouais.
Qui a joué,
oui.
Qui a joué.
Il y a trois Grecs maintenant, parce qu'ils en ont drafté un autre. Et on ne fera pas croire que choisir un Grec en 60 qui vient de la même agence que celle de Giannis, c'était pas un cadeau pour le titre.
Non, mais en tout cas, moi, en fait, c'est ça qui me fait peur. Et ce que j'allais vous compléter, c'est que moi, j'ai peur qu'on demande trop de choses à Giannis, en fait, au bout du compte. C'est-à-dire que c'est un énorme défenseur d'aide pour tous ses coéquipiers. Mais à un moment, le gars, il gère aussi l'attaque. Et je trouve qu'on fait vraiment tout reposer sur lui. À certains moments, et que c'est peut-être pas la bonne idée.
T'as Jrue Holiday quand
même.
Mais
en fait, quand tu fais ces choix, tu sais qu'il va aider. Tu sais qu'il va aider quand Grayson Allen se fera déborder parce qu'il se fera déborder. Tu sais qu'il viendra en aide. Ce sera pas Jrue. Parce que Jrue, il sera sans doute pas là si Grayson Allen est sur le terrain. Et moi, ça m'embête un peu. C'est-à-dire qu'on lui donne cette charge en plus en playoff. Moi, je trouve que ça va peut-être être un peu trop. Donc, à voir comment ils font évoluer l'effectif. Parce que il y a quand même un Grayson Allen, ça peut se réenvoyer. Peut-être.
Madiane, il veut déjà le renvoyer dans le premier bus. La seule chose positive que je peux trouver à ça, personnellement, ils ont peut-être regardé le début de leur série qui fait beaucoup couler dents contre les Nets. Et ils se sont peut-être dit, notre chance, c'est vraiment d'être très fort en attaque, également parce qu'on sait que défensivement, tout PJ Tucker qu'il est, contre Kevin Durant, voilà, c'est compliqué. Donc, il y a peut-être...
Puis t'as Brook Lopez et Giannis qui t'ont sur quand même un bon niveau.
Exactement,
défensif.
Qui vont protéger ta raquette et t'es prêt à vivre avec peut-être des joueurs sur l'extérieur qui vont être un petit peu plus en délicatesse. Très bien. Alors là, on finit avec les 76ers. Moi, j'ai une question simple. On avait des questions sur cette équipe. On enregistre, vous l'avez compris avec ce qu'on a dit depuis le début, on enregistre le 21 octobre, soir, Ben Simmons est encore un joueur de Philly. Question de ma personne, peut-on faire une preview sur cette équipe ?
Non. Non.
Bah, les tweets de Shams, là, sur... Alors, les tweets de Shams du mardi qui disent qu'il est... Mais ce soir-là, on enregistre, où ils disent qu'il a des soucis mentaux et qu'il veut se faire un peu...
Non, mais...
Non, pour moi, il n'y a rien à... Je pourrais faire une preview et une évaluation de Philly quand je serai la contrepartie du deal de Simmons. Voilà, c'est tout.
C'est terrible, hein. C'est terrible ce qui se passe, honnêtement, pour eux. Et je trouve que... Au moins, on aura. J'espère que ça y est, enfin les front office comprendront, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'insister. À chaque fois, ça part en cacahuète à la rentrée de la saison, entre le faux beat d'Arden l'an dernier, entre Jimmy Butler avec les troisièmes couteaux qui va tabasser les titulaires à l'entraînement. Ça ne se passe jamais bien, en fait. Le mec a décidé de partir, faut accepter, c'est une ligue de superstars. Quand ta star a demandé à partir, tu ne peux rien faire. Il y a pareil, les Spurs,
mais ça reste dur à accepter quand même.
C'est dur à accepter.
Nous, on est détachés, mais quand t'es fan de la franchise, tu peux comprendre que ça soit dur à accepter.
Quand t'as investi un premier choix de draft, ouais, que tu lui as donné le contrat, il s'est blessé, donc tu l'as quand même suivi pendant sa blessure et tout, il y a de l'affectif.
Ouais, il y a de l'affectif.
Tu vois, c'est un mec comme Kyrie, Boston, on l'avait prolongé et au bout de quelques mois, il fait son cirque. J'aurais été un peu tatillon, tu vois. Je comprends que là, déjà, je comprends que ça soit dur à accepter pour les fans.
Ouais, les fans.
Donc, c'est le délire du t'es sous contrat. Voilà. Et puis, ne serait-ce qu'économiquement ça, mais quand t'es fan de Philly, je comprends que ça soit dur. Parce qu'ils ont toujours défendu Ben Simmons. Hein. Les mecs du process et tout, ils ont toujours, été dans le camp Ben Simmons. Dans les premiers playoffs, ça parlait déjà des soucis de Ben Simmons.
Et honnêtement, il s'était fait exploser deux fois de suite par Boston, de mémoire.
Non, parce que contre Boston, la première année, il est exposé. Ouais. La deuxième fois qu'on les joue, il est blessé, en fait. C'est dans la bulle. Mais c'est contre Toronto où ça se passe pas très bien, apparemment.
Voilà, enfin, je trouve que, voilà, de toute façon, voilà, on va pas faire un cas de Ben Simmons. Moi, c'est l'une de mes pires takes du podcast, le cas de Ben Simmons.
T'inquiète, ouais, on en a tous.
C'est mon premier pod.
Tu battras pas les mines.
C'est mon premier pod, la Take Ben Simmons. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça y est, ça sert à rien. Là, il faut qu'on retrouve l'apaisement. Et puis même, tu vas agacer. On voit bien l'attitude d'Ami. Tu vas agacer tout le monde en le gardant. Ça sert à rien, c'est toxique. Mais ce qui est con, c'est qu'il a encore moins de valeur maintenant.
Sur l'aspect mercantile. Mais du coup, par rapport à Simmons, juste un petit truc. Madian, je suis d'accord sur les superstars, mais c'est un argument que donne souvent Adrien. Il y a un moment où là, on a baissé de gamme de joueurs. Tu vois, quand tu compares aux joueurs cités précédemment, Harden, qui est encore au-dessus d'un Butler, et là, en fait, on descend de plus en plus et on se demande jusqu'à où on va descendre. On avait fait un débat après l'arrivée de Kawhi du côté des Clippers l'été 2019, du coup, sur le pouvoir des superstars, peut-être qu'il serait bon de réactualiser parce qu'on a l'impression que, encore une fois, on se situe, nous, philosophiquement, peut-être plus du côté des joueurs, mais c'est vrai que là, on descend de plus en plus parce que c'est un joueur que nous, on classe pas dans notre DH20 qui, quand même, arrive à forcer son destin, donc ça pose des questions.
Ben, en fait, moi, je pense que là-dessus, c'est un joueur qui s'en fout et qui sait qu'il aura un contrat. En fait, c'est un joueur qui n'est pas en danger de sortir de perdre de la valeur contractuelle ou de sortir de la ligue au moment où il fait ça. Quand le joueur a ce pouvoir-là, il peut se permettre de faire ça. Si c'est un joueur qui sait qu'il perdra de l'argent sur la table ou qu'il prendra le risque tout simplement qu'on lui propose rien parce qu'il est trop chiant à gérer, là, il a beaucoup moins de pouvoir et donc il ne fait pas ce genre de choses. Pour moi, le pouvoir des joueurs réside dans sa capacité à convaincre d'autres franchises qu'il sera un bon pari malgré les défauts qu'il peut afficher.
Bah alors si c'est ça, il y a 15%, 20% de la ligue qui a un pouvoir démesuré. Et pour terminer, question de Gabin, un de nos CM qu'on salue. Doc Rivers est-il responsable de la demande de départ de Ben Simmons? Il faut savoir, je vais poser le débat parce que celui-là il est intéressant. On ne peut pas tout révéler, mais quand il y a eu la série de tweets et le début de l'entraînement un peu lunaire du côté de Philly, on n'était pas d'accord chez nous. C'est malheureux parce qu'on ne représente pas vraiment les nuances de Dunk Hebdo ensemble, parce qu'on avait d'un côté certains qui pensaient qu'ils voulaient quand même blâmer Joel Embiid et Doc Rivers un peu pour leur sortie. Et je pense qu'on est tous les trois un peu dans la même veine, qui essaye de les dédouaner vis-à-vis peut-être du comportement un peu de Simmons. C'est globalement, on est tous d'accord par contre des deux côtés pour dire que les fautes sont partagées. Ça, c'est une certitude.
Ouais, moi je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est intelligent, mais je pouvais un peu comprendre les propos d'Embiid
C'est ça, c'était, si je précise, c'était surtout au niveau des propos d'Embiid où en gros, il y avait une partie du site où on était en mode ça peut se comprendre et une autre qui disait il aurait dû botter en touche, quoi.
Mettre de l'eau dans son vin, vers le coéquipier, le leader, ça, ce qui est pas faux en plus, ce qui n'est pas faux, mais j'ai dit que déjà, c'est pas, on doit pas, une espèce d'idéalisation du leader en sport qui est extrêmement unique en fait, unidimensionnel, mais donc si tu n'es pas comme ça, t'es pas un bon leader ou des choses comme ça. Je pouvais comprendre la frustration de Joel Embiid. Alors il l'exprime, voilà, il a pas non, c'est compliqué. Doc Rivers, c'est un peu différent parce que Doc Rivers, il a à la fois, je pense qu'il a voulu à la fois après la série de playoffs piquer Ben Simmons. Comme on pique une superstar dans le public pour toucher son ego, qui se remette à bosser. Et ensuite, il a défendu hein, sur le reste de la période. Je le veux dans l'équipe, on compte sur lui. Dans d'autres sports, ça se fait. Hein. Il y a des coachs des fois qui mettent un peu sous le bus, comme on dit l'expression, des joueurs pour un petit peu essayer de les piquer. Sauf que Ben Simmons, mais on le sait depuis longtemps que c'est le type de caractère qui ne fonctionne pas tellement comme ça. Donc, on peut lui en vouloir sur Rivers de peut-être pas avoir compris comment appréhender le psychisme de Simmons, mais on peut pas trop lui en vouloir pour le reste pour moi.
Je trouve que Rivers a quand même un taf très compliqué, hein, honnêtement. Il arrive là, en plus après une expérience plutôt malheureuse juste avant, il enchaîne et il se retrouve vraiment, enfin. C'est pas simple à gérer entre, je pense que Joel Embiid est quand même un sacré bestiau. J'ai pas d'inside, mais à mon avis, c'est pas non plus la personne la plus facile avec laquelle vivre. Et ouais, je pense que peut-être que Ben Simmons a mal vécu son année, et que peut-être qu'on aurait pu agir pour le mieux. Au bout du compte, oui, c'est pas l'avis de tout le monde, mais au bout du compte, là, Ben Simmons, je trouve, abuse un peu trop. C'est-à-dire que tu peux demander ton trade et peut-être être un peu plus respectueux, dire juste que tu veux partir, etc. Mais il y a l'affaire de « je veux pas rencontrer mes coéquipiers » qui étaient partis pour aller le voir quand même. Il leur a mis un stop. Là, l'entraînement...
Il y a l'affaire du faux test Covid. Si ça, c'est vrai.
Si ça, c'est vrai, c'est incroyable. Donc, en gros...
Du match
pour
7,
expliquer aux gens, il y aurait peut-être eu une tentative d'éviter de jouer le match 7
contre Atlanta. Ça peut pas être vrai.
Je peux pas un sportif dans un tel moment, personne s'attendrait à ce qu'il perde, ce serait terrible.
On lui souhaite pas, mais c'est un peu triste. Les historiques du podcast d'un Kebdo savent que Alan et moi, c'est un joueur qu'on kiffe vraiment Ben Simmons. Enfin, moi, c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, c'est un des joueurs que je préfère voir jouer. Donc, s'il y a peut-être un peu de l'affectif, c'est triste de voir la situation actuelle. Après, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Doc Rivers, là où je veux pas totalement l'excuser, c'est, comme tu l'as dit, Alan, il aurait dû savoir que Ben Simmons ne fonctionne pas comme ça. C'est pas le mec que tu mets sous le bus, que tu vas tacler en conférence de presse pour espérer avoir une espèce de réaction comme peuvent faire d'autres, tu vois. C'est là où je te rejoins aussi sur l'idéalisation du leader. LeBron James, époque Cavs, il met, et même début avec les Baby Lakers, il met des mecs sous le bus aussi. Et ça, c'est pas ce que je considérerais comme l'espèce de leader fantasmé. Pour moi, c'est pas ça non plus.
Délire du Kobe qui trash talk tous ses coéquipiers, c'est ça, et ça fait de ça.
Tu vois, je pense que Ben Simmons, il est pas réceptif à ça, tu vois. Ouais.
Non.
Exactement. Très bien. Eh bien, on aura fait une preview des Sixers sans parler une seconde du terrain. Donc la réponse était non, on peut pas faire.
Ils ont gagné, ils sont à 1-0.
On va faire une preview sur cette équipe. On s'excuse. Quand la situation sera beaucoup plus claire, moins brouillonne, on en parlera. Hein, rassurez-vous, les fans des Sixers. Mais là, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait même pas quelles seront les contreparties. On part sur quel projet, etc. C'est vraiment fouillé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a terminé cette quatrième partie. On a donc fini de parler de la conférence Est. On avait déjà fini de parler de la conférence Ouest. La prochaine fois, on se retrouvera pour 15 questions sur les trophées et la saison en général. Du coup, c'était un plaisir, Madiane. Alan, on répète que vous pouvez trouver le lien dans la description pour le League Pass, pour regarder les matchs NBA. Vous l'avez compris, dans toutes les langues. Il y a aussi de l'espagnol, du portugais pour ceux qui veulent vérifier.
Et n'importe quand, surtout. N'importe quand.
Ça, c'est incroyable. Et il y a un essai de 7 jours. Vous pouvez passer par le lien Dunk Hebdo pour en profiter. Nous, moi, justement, je vais aller profiter de mon League Pass parce que je n'ai pas vu le apparemment fantastique match entre les Knicks et les Celtics. Il faut donc que j'aille le voir rapidement. Désolé, Alan. Et du coup, nous, on va se retrouver très vite pour cette dernière partie des previews. C'était un plaisir. Suivez-nous sur Twitter également. On va essayer d'interagir avec vous, avec nos CM, mais aussi avec les Space dont j'ai parlé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Tchuss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.